7 horas 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Bonsoir Nicolas.
Et heureux de vous retrouver pour une nouvelle année de reportage sur les 5 continents et pour débuter cette nouvelle saison, Michael, honneur encore et toujours donc au reportage. Reportage particulièrement rare ce soir.
Oh que oui, puisqu'on vous emmène en un lieu où très très peu de journalistes ont pu aller, direction l'Afghanistan, Nicolas, et plus précisément la prison pour femmes de Kaboul. C'est un petit bâtiment austère, coincé dans une annexe du ministère de l'Intérieur au cœur de la capitale. Endroit, vous vous en doutez, ultra sécurisé, avec d'innombrables points de contrôle avant d'accéder à l'enceinte. Et c'est là que s'entassent des dizaines d'Afghanes, plus ou moins jeunes, toutes détenues, dites de droit commun. Sauf qu'en Afghanistan, le droit commun n'a pas du tout la même définition que pour nous. De très nombreuses femmes sont incarcérées ici pour des affaires de mœurs. Et là encore, tout est dans la définition. Alors, rencontre avec quelques-unes de ces détenues au micro de notre envoyée spéciale, Vanessa Descours.
La seule source de lumière naturelle est tout en hauteur. On la croit d'abord inaccessible, sauf pour un enfant assis sur un étroit rebord. Il a pu y accéder en grimpant sur un lit superposé. En rentrant dans cette pièce lugubre, c'est la toute première chose qu'on voit. Le dos de cet enfant, il doit avoir 3 ou 4 ans, derrière une fenêtre grillagée, comme hypnotisé par le monde qu'il voit dehors. Il y a une vingtaine de femmes, une dizaine d'enfants dans cette cellule. Ils n'ont évidemment rien pour jouer, que les bras de leur mère pour passer le temps. Comme Ibrahim, 3 ans, emprisonné avec sa mère Freshta, accusé de meurtre, ce qu'elle nie. Et avant même son procès, son mari l'a déjà répudié.
J'ai personne à qui le confier. Mon mari a une deuxième femme, mais mon fils ne serait pas bien traité avec elle. Si j'avais quelqu'un pour le garder, je le laisserais même pas une minute ici. J'ai de la famille, mais ils savent pas que je suis là. Si je leur dis, je vais être déshonorée par les miens. Je le supporterai pas. Si j'étais coupable, je leur aurais dit. Mais là, je suis innocente, j'ai rien fait. Ça fait 41 jours que je suis ici avec mon fils.
En Afghanistan, les prisons sont remplies de condamnés pour des affaires de mœurs. On les appelle là-bas les crimes moraux. Les relations extra-conjugales, par exemple, sont condamnées par 5 ans de prison, contre 2 ans en moyenne pour un vol. Et puis, il y a le tabou ultime de la prostitution. La peine peut aller jusqu'à 10 ans de prison, autant que pour un meurtre. C'est ce que risque Rosia, 23 ans, un bébé d'un an. Tout le désespoir d'une femme consciente que sa vie d'enfermement ne fait que commencer. Tout le désespoir aussi d'une femme qui, au final, n'a jamais été vraiment libre.
Un homme m'a proposé 5 euros pour un rapport sexuel avec lui. J'ai accepté car je devais acheter du lait en poudre pour mon fils. Je n'avais rien pour l'acheter, rien pour vivre. J'étais dans la maison avec cet homme. On était assis. Quand la police est arrivée, on n'avait encore rien fait. La police est entrée, un jeune officier a dit « Vous êtes ici car vous venez d'avoir un rapport sexuel. » Ils ont dit « Donnez-nous 50 euros et on oublie l'affaire. » L'homme avec qui j'étais a dit qu'il ne les avait pas et je suis là.
C'est la directrice de la prison. Elle raconte que cela fait 2 mois qu'elle n'a pas été payée. Dans son bureau, l'ordinateur est encore sous film plastique, pas encore déballé. Nouzia Karimi est pourtant loin de cet univers. À l'origine, elle a un diplôme de sage-femme, mais elle se retrouve là, à diriger cette prison, et elle réalise l'ampleur des problèmes.
Notre problème majeur, c'est d'apporter une assistance médicale à ces femmes. Dans ce centre de détention, nous n'avons pas de femme médecin qui puisse intervenir lorsque ces détenus tombe malade. On n'a même pas dans l'enceinte de la prison un dispensaire avec un docteur qu'on puisse solliciter jour et nuit s'il arrive quelque chose.
Il n'y a même pas de trousse à pharmacie, reconnaît la directrice. En cas d'urgence, dit-elle, c'est le médecin du centre de détention pour hommes qui est appelé, mais en fonction des soins à prodiguer et particulièrement s'ils sont intimes, il ne pourra pas intervenir.
Voilà, reportage rare et édifiant, signé Vanessa Descours.
Strictement rien à voir, Michael. Vous nous emmenez maintenant dans un grand magasin londonien.
Et pour évoquer un concept aussi rare en radio que justement dans un grand magasin, celui de silence. Or ici, il s'agit bien de quête du silence. Et en la matière, le Britannique Nigel Rogers vient de gagner une première bataille qui pourrait faire jurisprudence, car Nigel souffre de troubles auditifs qui lui rendent le quotidien insupportable. Pour faire simple, Nicolas, il entend parfaitement bien, mais lorsqu'il y a trop de sources sonores simultanées, eh bien tout se brouille et surtout les terribles acouphènes surgissent.
N'en parlez pas.
Ce qui donne à peu près ça pour lui dans un grand magasin. C'est terrible et vous connaissez
bienvenue
ça.
Bienvenue dans mes oreilles.
Et cela fait près de 20 ans que Nigel Rogers et son association Pipe Down se bat pour l'interdiction des musiques de supermarché et il vient de gagner. La célèbre enseigne britannique Marks & Spencer a suspendu cet été la diffusion de musique d'ambiance dans ses principaux magasins de Londres, d'abord Oxford Street. Elle s'apprête à tenter l'expérience ailleurs en Grande-Bretagne. Pas évident quand on sait que des centaines d'études marketing affirment depuis plus de 40 ans que la musique est un vecteur d'achat. Alors on verra la suite, en tout cas pour les oreilles sensibles, c'est déjà une première victoire.
Allez, très loin de Londres, Michael, direction maintenant la Corée du Sud, voyage entre modernité et retour aux sources confucéennes.
Oui, et là-bas, comme ailleurs, si certains ont passé leurs vacances d'été à lézarder sur le sable, d'autres ont été beaucoup plus studieux, car au pays du matin calme, de plus en plus de parents envoient leurs enfants étudier le confucianisme durant les vacances. Des stages très encadrés qui se déroulent dans d'anciennes académies, souvent pluricentenaires. Académies très conservatrices, parfois même taxées de réactionnaires, mais qui continuent de fortement influencer la société sud-coréenne. Bonjour Frédéric Ojardias, correspondant de France Inter à Séoul.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Alors vous aussi hein, Frédéric, vous êtes allé étudier le confucianisme pour nous cet été.
Oui, Michael, je suis parti à Sosu Sowon. C'est la plus ancienne académie confucéenne de Corée. Elle a été fondée en 1543. Elle se trouve à 3 heures de route de Séoul et le cadre y est idyllique. Une rivière, une forêt de pins, des pavillons en bois centenaires, des sanctuaires, des salles de cours. Le temps semble y être arrêté et pas seulement à cause de l'architecture. On y enseigne le confucianisme, une doctrine morale et politique élaborée il y a 2500 ans et qui vise à l'harmonie sociale à travers le respect dû aux aînés. Sosu Sowon organise des stages de plusieurs jours destinés à initier les petits Coréens à ces valeurs. Park Sok-hong est le conservateur en chef de l'académie.
Le confucianisme n'est pas une religion, c'est un ensemble de préceptes précieux qui montrent aux citoyens le droit chemin. Par exemple, il nous enseigne que le souverain doit se comporter comme le souverain, le vassal comme le vassal, le mari comme le mari, l'épouse comme l'épouse, un homme comme un homme et une femme comme une femme. Le confucianisme nous enseigne l'ordre social idéal. Ici, les enfants peuvent ainsi se familiariser avec l'étiquette qui régit les relations entre professeurs et élèves et aussi entre individus du même âge. Nous vivons dans une société submergée par l'individualisme et ces règles servent à apprendre à vivre ensemble. Nous voulons encourager l'esprit de communauté.
Alors, encourager le vivre ensemble, d'accord, c'est louable, évidemment, sauf que le confucianisme est toujours accusé de véhiculer des valeurs rétrogrades, démodées. Comment ça se passe, Frédéric, avec les jeunes enfants ?
C'est vrai qu'en Corée du Sud, l'interprétation du confucianisme est très stricte et cette interprétation a servi pendant des siècles à prôner un ordre social conservateur basé sur le respect de la hiérarchie, ce qui est la source de nombreux problèmes aujourd'hui, comme par exemple la hiérarchie très rigide qui régit le monde du travail ou encore la préférence traditionnelle pour les garçons, car les garçons perpétuent la lignée familiale, préférence qui a pendant longtemps engendré des avortements sélectifs de petites filles en Corée. Ce dernier problème est heureusement réglé. Les jeunes générations plus modernes voient les choses différemment et rejettent les aspects les plus rétrogrades du confucianisme. C'est pourquoi les académies confucéennes, dans leurs stages destinés aux enfants, ne leur apprennent pas seulement à faire des courbettes devant des peintures d'honorables penseurs. Elles prévoient aussi des activités plus ludiques de redécouverte des traditions coréennes. Ji-woo, 14 ans, a participé à l'un de ces stages pendant 10 jours.
Nous avons appris la teinture traditionnelle, l'écriture de caractères chinois, le tir à l'arc, la cérémonie du thé, mais aussi l'étiquette et les règles de bienséance pour saluer les gens plus âgés. Le confucianisme, c'est ce qui concerne la relation avec nos parents. La piété filiale, par exemple, ce que j'ai appris, c'est quand nos parents nous ordonnent de venir, eh bien, il ne faut pas répondre, il faut juste obéir et venir.
Tu aimerais y retourner pour un nouveau stage ?
Non, c'est trop dur. C'est un style de vie trop différent par rapport à aujourd'hui. On n'avait le droit ni au smartphone, ni à l'ordinateur, ni à la télé.
Ah oui, l'horreur, pas de smartphone, pas de télé. Du côté cette fois des parents, Frédéric, pourquoi envoient-ils comme ça leur progéniture dans ces académies confucéennes ?
Eh bien, les Sud-Coréens vivent dans une course permanente. Ils ont des vies ultra connectées, mais aussi de plus en plus déshumanisées. Ils souffrent de nombreux maux apportés par la modernité. Une société hyper compétitive, une hausse effarante des suicides, un effondrement de la natalité, avec seulement 1,2 enfants par femme en moyenne. Beaucoup remettent donc en question leur modèle social et cherchent naturellement des réponses dans les préceptes du passé. Cela explique en partie pourquoi 150 académies confucéennes ont mis sur pied ces programmes pour les enfants. D'autres y voient aussi, plus prosaïquement, un moyen d'inculquer le respect et l'obéissance à leur progéniture. Le père de Jiu, le jeune qu'on vient d'entendre, explique pourquoi il a décidé d'y envoyer ses deux fils.
Je voulais qu'ils découvrent nos anciennes traditions et l'éducation confucianiste, et qu'ils réfléchissent à leur relation avec leurs parents. Je ne crois pas que ce sont des valeurs trop conservatrices. Le respect pour les parents, pour les gens plus âgés, c'est du bon sens, c'est nécessaire. Ce n'est pas conservateur. C'est vrai qu'après le stage, mes deux enfants ont changé d'attitude, mais pendant quelques jours seulement. Ils sont vite redevenus comme avant. Je ne vais pas les renvoyer, faire un nouveau stage. C'était juste pour l'expérience.
Bon, voilà, du bon sens et pas du conservatisme. Merci Frédéric Ojardias en direct de Séoul. Et Nicolas, je vous laisse méditer là-dessus. À demain.
Je vais le faire. Merci Mickaël.